Alors je propose qu'on ne se jette pas tout de suite du 15e étage. On attend un tout petit peu la fin du congrès. On va demander aux orateurs de venir s'installer ici. J'essaie de vous donner les micros. Alors pour parler d'interprofessionnalité, on s'est représenté Marie-Odile Le Guinel, qui est sage-femme, formatrice à l'école de sage-femme de Caen, et puis moi-même, je suis physiothérapeutiste. Et donc nous avons la sage-femme et le médecin et le pédiatre. La parole est à vous.
Est-ce qu'il y a une question?
Moi, j'avais une question pour commencer avec M. Olivier. Vous avez dit qu'il faut en fait mettre plus en valeur le rôle des observateurs. Et finalement, on n'est pas obligé que chaque participant soit actif dans un scénario. Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu? Parce que, est-ce que du coup, on peut faire une séance avec 40 personnes et puis trois acteurs, trois personnes actives? Ou c'est quoi les modalités?
Voilà, en fait, c'est pour plusieurs raisons logistiques et de coûts. En fait, il y a un article qui a été publié récemment, je crois, c'est dans le BMJ STEL, donc c'est le journal de ASPI, donc la Association for Simulated Practice in Healthcare in the UK, en Angleterre, où il y a une étude qui a été faite, où en fait ils ont donné à des apprenants l'opportunité de prendre part à un scénario, et un autre groupe d'apprenants, ils n'ont pas pris part à un scénario, ils ont seulement observé. Après, les deux groupes ont été testés sur un autre scénario et le résultat, la performance des deux groupes en fait était identique. Donc il n'y a pas eu d'avantage pour ceux qui ont eu la chance d'observer un scénario avant. Ils ont eu le même bénéfice que les autres donc, en tant qu'observateurs. Donc ça, je crois qu'il y a plus de recherche encore qui doit être menée, mais je pense que cette approche, si ça peut être encore répliqué, ouvre les portes à en fait, à des plus grandes salles d'observation, peut-être, pour donner cette expérience à plus d'apprenants.
Ça contredit un petit peu l'idée que pour apprendre, il faut des stimulations multimodales. Il faut voir, il faut entendre, il faut toucher. Et c'est comme ça que finalement, on mobilise tous ces sens et que l'apprentissage s'ancre mieux dans notre mémoire. Donc, ce que vous dites, ça va un peu à l'encontre.
Ouais. En fait, tous les apprenants ont différentes préférences d'apprentissage. Et je sais qu'il nous est arrivé par des rares occasions où il y a des apprenants qui étaient timides, qui ne voulaient pas vraiment prendre part à la simulation. Et au bout du compte, ils le font parce qu'ils sont peut-être les troisième ou quatrième scénario. Ils ont vu leurs camarades le faire, ils le font. Mais en fait, ils peuvent aussi très bien arriver à s'engager par l'observation et par l'observation des scénarios, et puis aussi prendre part au debriefing.
Vous permettez ? Il y a un éducateur, c'est Albert Bandura, qui était un grand éducateur et qui a parlé beaucoup de vicarious learning. C'est ce qu'on appelle la transmission de l'apprentissage juste en observant. Et c'est surtout pour les non-technical skills. C'est comme vous dites, on apprend beaucoup quand on touche. Mais ce genre d'apprentissage qui porte sur les facteurs humains et sur les non-technical skills, il peut être transmis juste en regardant. Donc ça a été déjà prouvé, c'est ça?
Oui, là, c'est pas pour l'apprentissage des gestes.
Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Des questions?
Dans ce cas-là, sinon je pourrais commencer de l'ECMO demain, ce que j'en ai observé.
Oui, merci à chacun. Tout à l'heure, il a été évoqué la possibilité de débriefing sans formateur. Sur quels critères est-ce qu'il peut être décidé de laisser l'équipe débriefer seule?
C'est l'étude de Sylvain Boët.
L'auto-débriefing. Oui.
Alors, sur le débriefing, il y a eu deux publications. Une, c'était Sylvain Boët qui a fait des équipes qui se débriefent entre elles, moyennant une formation très courte et l'aide de grilles de débriefing. Il y en a une autre avec des débriefings de vidéos qui ont montré aussi que, dans une certaine mesure, des professionnels de santé se pouvaient se regarder et aussi se débriefer. Et nous, on a fait une expérience avec des étudiants, alors c'est du peer debriefing, donc entre eux, on avait mis des étudiants de 4e et de 5e année de médecine à faire des simulations entre eux. Alors ils faisaient une première simulation pour s'entraîner, où ils avaient un vrai debriefing. Après, ils faisaient des simulations où ils se débriefaient entre eux, et on contrôlait à la fin une dernière simulation, on voyait s'ils avaient progressé. Et en fait, on a montré qu'il n'y avait pas, entre un débriefing qui était fait par un enseignant et des débriefings qui étaient faits par les pairs, il n'y avait pas de différence. Et que le taux de rétention à 3 mois n'était pas meilleur non plus chez celui qui avait été débriefé par des enseignants. Alors, attention, à quelles conditions? C'était à condition qu'on les ait formés au débriefing sur des tâches qui étaient courtes et très bien identifiées, et puis qu'ils avaient appris aussi les principes du débriefing. Donc, à certaines conditions, effectivement, voilà, il y avait un édito qui disait est-ce qu'il faut tuer le débriefeur en simulation? Non, bien sûr. Par contre, c'est des pistes intéressantes pour du co-débriefing, oui. Ou de l'auto-débriefing.
Pour diffuser un petit peu la simulation, oui. Et la rendre plus réalisable.
Oui. Tout à fait.
Alors, il existe aussi peut-être un débriefing qu'on n'a pas évoqué, mais bon, c'est pas non plus l'objet. C'est le débriefing pair simulation. Hein, donc, c'est pendant la simulation, on va faire des courtes pauses de 2-3 minutes maximum, et on va faciliter, on va débriefer les étudiants sur leurs actions. Et là, pareil, dans ce type de débriefing, il n'y a pas d'apport supplémentaire par rapport à un débriefing post-simulation conventionnel. Donc, pour l'instant, voilà. Guillaume.
En fait, je ne sais pas si vous connaissez que Denis Oriot, on a publié en début d'année un livre, et j'ai acheté quelques copies qui sont au guichet, donc on peut faire des dédicaces si vous êtes intéressés. Et aucun de droit d'auteur, on reçoit aucun droit d'auteur, donc il n'y a pas de conflit d'intérêts.
Alors sur les débriefings en cours de scénario, ce que j'avais lu, moi, c'est qu'il fallait que ça soit sur des scénarios assez simples, parce que sinon ça casse quand même le déroulé du scénario, et après ça, pour que les gens se remettent dans le scénario, ça peut être difficile. Donc il faut, et c'est surtout intéressant pour l'évaluation de la situation, et être certain que tous les apprenants ont la même perception de la situation, et effectivement dans les simulations interprofessionnelles, ça peut être intéressant de s'assurer que et l'infirmière, et le médecin, et l'aide-soignante, et la sage-femme voient la situation de la même façon. D'autres questions? Oui.
Une question et après un soutien dans la démarche, parce qu'on est tous écœurés du blocage du DPC, donc merci Morgane de l'avoir exploré. La question, c'est est-ce qu'à l'heure actuelle il y a des études et un impact sur la culture du débriefing face aux événements indésirables lorsqu'ils surviennent dans la vraie vie, dans les vrais services? Est-ce que le fait de faire de la formation interprofessionnelle en simulation, et quelle que soit la forme du débriefing, commence à développer aussi la culture du débriefing face aux vrais événements, face à des vrais patients?
Allez-y. Que les pédagogues parlent.
Donc en fait, mon expérience encore au Qatar, où on a mis en place service d'ECMO, tout a commencé par la simulation, et en fait, ce que l'équipe d'ECMO pratique régulièrement en simulation, ils l'ont mis en place dans la vie réelle. Donc je suis sur leur groupe ECMO, il y a sans arrêt des debriefings, maintenant des vrais cas cliniques, parce que c'est ce qu'on a implémenté dans la simulation. Maintenant, ils se sont ouverts à le faire aussi dans la vie réelle, alors qu'avant c'était plus ou moins évité, les gens essayaient de l'éviter. Maintenant, ils en prennent part pour vraiment s'ouvrir et améliorer. Et je sens, et il y a plein de retours d'expérience, les équipes maintenant, il y a une plus grande collaboration, un plus grand respect de tous, et maintenant tout le monde veut faire partie, tous les personnels de soins intensifs, ils veulent tous rejoindre cette équipe ECMO, un peu élite, parce qu'ils voient qu'il y a une très bonne collaboration, il y a des événements sociaux, il y a un plus grand respect, et en fait, tous se sentent plus ouverts et ça bénéficie les patients. Les statistiques en ECMO sont assez bonnes parce qu'il y a cette ouverture au debriefing, même avec les vrais cas.
Alors nous, au niveau de la commission simulation de la Société française de néonatologie, on a l'idée de recenser les événements indésirables en salle de naissance pour justement en faire des scénarios et finalement, là aussi, intégrer les événements de la vraie vie dans nos scénarios et imaginer des scénarios un peu différents de ceux qu'on fait habituellement, qui sont plus classiques, qui sont un peu standards. Et donc là, c'est pareil, c'est exploiter les événements indésirables pour les éviter en travaillant sur des scénarios de simulation. Encore une ou deux questions, et puis je vous rappelle qu'il y aura l'Assemblée générale de la Société française de simulation qui se passe à l'amphi de la MRSH. Et donc encore deux questions peut-être, monsieur.
Oui, une question dans la prolongation de la question précédente. Est-ce que, au cours de séances de simulation, vous observez des événements qui alimentent le retour d'expérience, c'est-à-dire des événements qui trouve intéressant en termes d'événements précurseurs, pas forcément indésirables. Tout à l'heure, David Grant présentait au cours des simulations une tête qui était disposée à l'envers parce que le câble était trop court. Mais ça, c'est sur le plan technique, mais sur le plan fonctionnement d'équipe, est-ce que vous observez, par exemple, un événement qui est intéressant à travailler ? Et la deuxième petite question, c'est dans le premier film, au début du film, on sentait du stress de la part des acteurs. Alors, je ne sais pas s'ils étaient stressés parce qu'ils étaient filmés ou pas. Est-ce que vous percevez du stress dans les séances de simulation ? Est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Et est-ce qu'il est intéressant à débriefer ?
Alors, est-ce qu'on sent du stress ? Oui.
Alors, le stress, oui. Alors, on ne sait pas exactement à l'heure actuelle si le stress est lié. On sait qu'il y a du stress. D'ailleurs, il est documenté. Y compris biologiquement, physiologiquement. Maintenant, alors, est-ce que c'est le stress de ne pas résoudre la solution, le problème qu'on nous pose, ou est-ce que c'est le stress qui est lié à la méthode elle-même d'être regardée ? Pour l'instant, c'est difficile de faire la part des choses. Mais oui, il y a du stress. Il y en a de moins en moins quand les gens intègrent la simulation. C'est pour ça que le pré-briefing, bon, je ne vais pas m'étendre sur la question, mais la question du pré-briefing, elle est essentielle, mais pas forcément comme on le fait actuellement, en faisant un cours magistral sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, tout ça. Le meilleur pré-briefing, c'est la première séance et le premier débriefing. C'est là que les gens ont compris que c'est un outil et qu'ils vont se sentir bien. Donc, il faut, à mon avis, il faut passer vite et ça diminue le stress. La première question, c'était sur les événements... Alors, des événements qu'on modélise, alors. Ah, d'accord. Donc, en fait, la simulation, comme... d'accord, donc c'est pas pédagogique, là, c'est pour... analyse de l'activité professionnelle, quoi. On va tester un nouveau service d'urgence, on va tester un nouveau matériel. Oui, alors, moi, on n'en est pas là, parce que déjà, on en est à... Mais c'est... Oui, bah, Christine Amirati, par exemple, a expliqué qu'avant de mettre en place... son nouveau service d'urgence, ça tombait bien parce qu'ils avaient leur service un centre de simulation qui était, c'était la même date pratiquement, et donc ils ont pu tester les nouvelles urgences avec des mannequins en simulation et réajuster des procédures. Je sais qu'au Canada, ils l'ont fait aussi avant des travaux de service d'urgence. Donc oui, alors sur table ou en réel d'ailleurs.
On a ouvert nouvellement dans l'hôpital où je travaille une unité de stroke unit. Et on sait très bien qu'à partir qu'il y a un golden time, c'est-à-dire quand on va intervenir dans la neuroradiologie, il faut que le malade, dès qu'il arrive aux urgences, jusqu'à ce qu'on fasse le geste, il y a un temps limite. Et on a beaucoup fait de simulations avant d'installer réellement et de commencer à amener des malades. Et je pense que ça s'est bien passé.
Un mot sur le stress. L'équipe d'Elie Saliba à Tours est en train de mesurer la conductance cutanée des apprenants lors d'une séance de scénario. Et donc, il va pouvoir comme ça mesurer l'évolution du stress au cours de la séance et après, au moment du débriefing. Ça sera intéressant de voir à quel moment il y a un pic de stress. Est-ce que c'est pendant le scénario ? Est-ce que c'est pendant le débriefing ou... Une dernière, oui.
Donc, aussi au niveau du stress, donc, je travaille dans un contexte culturel différent. Les employés de l'hôpital viennent de nombreux pays, 90 nationalités ou plus. Et pour beaucoup qui viennent de pays en voie de développement, ils n'ont jamais fait de simulation avant. Donc ce qu'on a fait maintenant, ce qu'on fait à chaque fois, pour toutes les sessions de simulation, on fait en fait une démonstration. Donc il y a le premier scénario qu'on fait entre formateurs, où on explique qui est dans un rôle d'acteur, qui est dans un rôle de participant. Ils font le scénario. Enfin, d'abord, on fait le briefing avec tout le monde. Après, ce premier scénario, on le fait. On fait le debriefing qui va avec, donc ils voient comment se passe le debriefing, comment aussi on peut impliquer les observateurs dans le debriefing. Donc au début, j'étais moyennement chaud pour le faire, mais en fait, on le fait et ça marche très bien. Et les personnes qui n'ont jamais fait de simulation avant plongent comme s'ils savaient déjà nager.
Eh bien, merci. Ce sera la parole de la fin. On remercie les orateurs. Et donc, on vous invite tous à aller à l'Assemblée générale de la Société française de simulation, donc dans la salle dans l'amphithéâtre de la MRSH.